Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal en direct avec Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Vous aimez les hachés à poêler Fleury Michon ou les cordons bleus Le Gaulois? Eh bien vous vous faites avoir. Les industriels ont dégradé la recette et gonflé les prix. Trois nouveaux produits épinglés pour chipflation. Gabriel Attal va annoncer ce matin une grande concertation sur l'ultra-violence chez les jeunes à la demande d'Emmanuel Macron. Et puis deux Français du badminton qui pourraient bien se retrouver privés de Jeux Olympiques à cause d'une bête erreur de calcul.
Trois industriels de l'agroalimentaire épinglés pour leurs pratiques malhonnêtes.
Vous ne vous en rendez sûrement pas compte, mais quand vous achetez votre skyr vanille, Siggy's, des cordons bleus de poulet, Le Gaulois ou encore les hachés à poêler Fleury Michon, eh bien vous payez plus cher pour un produit de moins bonne qualité qu'avant. On appelle ça la chipflation, ou quand les industriels changent la recette de nos produits et gonflent les prix. C'est l'ONG Foodwatch qui nous révèle l'information, chiffres et recettes à l'appui. Des informations que les consommateurs ne peuvent tout bonnement pas étudié en faisant leurs courses, et c'est tout le principe, Margot Boult.
Encore une technique des industriels pour faire plus de marge. Les clients venus acheter leur déjeuner ne sont même plus surpris.
C'est triste, mais bon, ça m'étonne pas. Hein.
Ça ou autre chose, au final, on s'y habitue.
Des cordons bleus, par exemple, avec moins de jambon et moins de fromage, mais vendus plus cher. Impossible de s'en rendre compte, dénonce Arnaud.
Par exemple, sur une pause déjeuner, là, comme aujourd'hui, je me fiais plus au Nutri-Score que passer du temps à regarder de quoi est composé mon plat.
Même en lisant le dos des emballages, les changements de recettes sont très durs à détecter, confirment Maxime et Céline, les bras chargés de courses.
En vrai, je retiens pas si c'était 31% ou 37% et si le prix a changé.
Enfin, c'est légal de faire ça?
La réglementation européenne l'autorise, comme le rappelle Audrey Maurice, chargée d'études chez Foodwatch.
Le problème de cette réglementation, c'est qu'elle est interprétative et qu'elle laisse cet espace pour les industriels de dire oui, mais attendez, on a mis la liste des ingrédients, le grammage du produit, on peut aller chercher l'information, elle est là.
Cette loi va être rediscutée l'année prochaine au niveau européen. La ministre du Commerce, Olivia Grégoire, s'engage à défendre l'obligation pour les industriels d'afficher clairement leur changement de recette.
Et d'ailleurs, Karine Jacquemart, la directrice générale de Foodwatch France, sera avec nous ce matin en direct sur RMC, ne la manquez pas à 7h40. Mais dès maintenant, on vous attend, vous, au 32-16. Consommateurs, est-ce que vous vérifiez tout là dans les rayons? Le prix évidemment, mais aussi le poids et désormais la recette qui change sans qu'on nous prévienne. Venez témoigner, vous n'hésitez pas, le 32-16 est ouvert.
6h33 sur RMC, nouvelle opération Place Nette à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, et en prime l'instauration pendant 2 mois d'un couvre-feu à 20h pour les mineurs, ordonné hier soir par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, en visite sur l'île, qui veut donc lutter contre la flambée de la délinquance. La mesure entrera en vigueur début de la semaine prochaine. L'ultra-violence chez les mineurs, ce sera le thème de la visite de Gabriel Attal à Viry-Châtillon en Essonne ce matin. C'est là que le jeune Chems Sedine a été tabassé à mort début avril. Le Premier ministre qui va y annoncer une grande concertation sur ce phénomène à la demande d'Emmanuel Macron. Alors qu'en pensent les élus, les parents et les associations qui seront associés? Nicolas Trénaud leur a posé la question pour RMC.
L'association de parents d'élèves, la PEP, salue cette initiative. Le porte-parole de la fédération, Laurent Zamekowski, espère être convié à cette grande concertation.
C'est une bonne chose, et surtout dès le moment où les parents d'élèves sont associés à cette question pour régler peut-être les problèmes qu'on a laissés traîner.
Il espère que cette sorte de Grenelle ne sera pas uniquement centrée sur le volet répressif, comme Mohamed Benmedour, éducateur dans les quartiers les plus sensibles de Marseille, qui aimerait que personne ne soit oublié.
Des éducateurs de l'aide sociale à l'enfance, des associations sportives de quartier,
ça permet d'être au plus proche de la réalité du terrain. Ça s'est jamais fait au cœur des quartiers.
Tous attendent des actes concrets pour éviter que se répètent les violences de l'année dernière, avec de très jeunes adolescents impliqués. Le maire Les Républicains de Villeneuve-le-Roi, Didier Gonzalez, estime d'ailleurs qu'il n'y a plus le temps de débattre.
Ça fait bientôt un an qu'on a eu les émeutes. Qu'on en parle. On a concerté les maires, on a fait des grands messes. Et là, on repart dans la concertation. Mais à un moment, il faut quand même décider.
Ce maire rappelle qu'une commission du Sénat sur les émeutes a déjà mené des consultations et remis 25 propositions la semaine dernière.
Gabriel Attal qui reviendra sur les 100 premiers jours de son mandat dans une émission spéciale sur BFM TV à 20h50 ce soir. Le Premier ministre qui s'exprimera aussi sur la violence chez les jeunes, donc, dont on a encore eu un exemple glaçant mardi à Grande-Synthe dans le Nord, où Philippe, 23 ans, a été roué de coups sur un parking. Il est mort de ses blessures, et hier, deux mineurs âgés de 14 et 15 ans ont été placés en garde à vue. Une marche blanche sera organisée demain. Écoutez l'émotion du maire de la ville, Martial Béart.
On est dans l'incompréhension, dans la grande peine, parce que Philippe, c'était un garçon
Un garçon qu'on connaissait tous, qui a participé aux activités de la maison communale par des contrats à la restauration scolaire, mais aussi des contrats dans les activités périscolaires ou dans les centres de loisirs. Vous savez, Grande-Synthe est une ville de 21 000 habitants qui fonctionne comme un village où tout le monde se connaît. Donc, bien entendu, pour nombre de nos concitoyens qui lui rendent hommage et qui sont dans l'incompréhension et qui regrettent aujourd'hui cet état de fait et cette violence incompréhensible.
À Bourges, deux policiers municipaux placés en garde à vue deux jours après la grave blessure d'un jeune homme lors d'un refus d'obtempérer. Il est toujours hospitalisé entre la vie et la mort après avoir percuté un poteau avec son scooter. Les policiers avaient notamment fait l'usage de gaz lacrymogène.
On en vient au JO avec une situation inédite et lourde de conséquences.
Les Français Lucas Corvée et Ronan Labarre, paire de double hommes de badminton, pourraient être privés de leurs premiers Jeux Olympiques cet été. La raison, une erreur de calcul pendant une compétition. Léna Marjac.
Aligné l'an dernier à une compétition par équipe en Chine, Ronan Labarre et Lucas Corvée seraient repartis avec quelques centaines de points en trop. Une erreur de calcul que la Fédération internationale de badminton a rectifiée seulement cette semaine, soit 11 mois plus tard. Conséquence, les deux badistes français passent deuxième paire française au classement et donc pas de Jeux Olympiques à la maison, car seule une paire de double hommes peut être qualifiée. Du côté de la Fédération française de badminton, cette erreur est une incompréhension. Jérôme Carey est le directeur technique national.
Je ne sais pas pourquoi ils s'en sont pas aperçus avant. Le fait est, c'est que sans avertir personne, ils ont changé l'attribution des points. C'est horrible pour les athlètes. C'est pas normal du tout. Ça se fait pas, en fait.
La Fédération internationale à l'origine de cette erreur n'a pour l'heure donné aucune explication, mais Jérôme Carey ne compte pas en rester là.
On est en train d'interroger, nous aussi, juridiquement, les différentes jurisprudences pour savoir quels seraient nos leviers pour la suite. Nous, du point de vue de la Fédération, il n'est pas question de privilégier une paire par rapport à l'autre. Ils étaient en course, que le meilleur gagne sa qualif. Juste, ça se fait pas.
Après ce recalcul de points, ce seraient donc les frères Christo et Thomas Popov qui pourraient finalement récupérer le seul et unique ticket olympique en double homme.
En football, la Ligue des Champions et le Real Madrid qui a pris sa revanche hier soir, balayé par Manchester City en demi-finale l'an dernier. Les merengues ont fait tomber les Anglais, champions en titre. En quart de finale, les madrilènes se sont imposés au tir au but. En demi-finale, ils affronteront le Bayern Munich, qualifié après sa victoire 1-0 face à Arsenal. Et puis ce soir, c'est le retour de la Ligue Europa, quart de finale avec le match OM-Benfica à 21h, à suivre bien évidemment sur RMC, tout comme Lille-Aston Villa en Ligue Europa Conférence à 18h45.
Et clairement, on est tous derrière les clubs français, derrière Lille, mais surtout l'OM, je dois le dire. Je suis cerné. Deux supporters marseillais viennent de s'installer. Laurent Demann, Victor Johannin. Bonjour messieurs.
Grand jour, grand soir.
Oui, on entend l'enthousiasme, évidemment. Ah oui. Et on souhaite tous une qualif de tous les clubs français. Après le PSG, si Lille et l'OM pouvaient passer en demi-finale européenne, ce serait fantastique, évidemment. Ce soir, ce sera à vivre sur RMC. Et puis, on va aussi suivre le Quintet, Élise, 13h55 sur l'hippodrome de Paris-Longchamp.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori aujourd'hui, c'est l'As Danse Sioux. L'outsider, c'est le numéro 8, Mamome. La course du Quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
Là, c'est le 8, c'est bien noté. Et on retrouve Élise tout à l'heure, 7h30.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Élise, il est 6h38 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Des cordons bleus avec moins de poulet à l'intérieur, mais dont le prix grimpe de 25%. Voici l'un des exemples de ce qu'on appelle la cheapflation, cette technique de l'ingro-industrie pour augmenter ses marges. Technique dénoncée par l'association Food Watch France qui a enquêté sur le phénomène. Mais est-ce que vous êtes attentif dans les rayons à la composition des produits, le prix, le poids, mais désormais aussi la recette? Est-ce que vous avez le sentiment de vous faire avoir, en fait, quand vous faites vos courses? Vous venez témoigner tout de suite, ça se passe au 32-16, c'est à vous de nous dire.
RMC Police Justice.
Comme chaque matin, une histoire repérée, racontée par le service police-justice d'RMC. On est avec Guillaume Biais. Bonjour Guillaume.
Bonjour Charles, bonjour à tous.
Alors ce matin, vous nous racontez l'affaire de cet employé d'un domaine viticole qui volait et revendait des très bonnes bouteilles pour s'acheter de la drogue.
Mais il faut dire qu'il était particulièrement bien placé pour mener son trafic en toute discrétion, puisque ce suspect n'est autre que le maître de chais de ce domaine viticole situé à Orange dans le Vaucluse. Ce qui veut dire qu'il était lui-même en charge de superviser toutes les étapes de fabrication du vin et qu'il avait donc accès à tous les stocks. Voilà comment pendant des années, il aurait détourné de bonnes bouteilles de Châteauneuf du Pape pour les revendre environ 5 fois moins cher que leur prix normal. Avant que l'enquête ne débouche, il a fallu 9 mois d'investigation pour établir dire comment ces caisses de vin disparaissaient, qui les écoulait et dans quel but. Au final, le maître de chat a été confondu par les policiers qui ont récupéré les SMS explicites qu'il échangeait avec ses trois complices, les receleurs présumés des bouteilles. En perquisition chez le suspect, les enquêteurs ont retrouvé des cartons de vin volés et 25 000 euros en liquide. Quant au mobile de cette affaire, eh bien, si ce trentenaire revendait sous le manteau le vin du domaine, c'était pour financer sa consommation de cocaïne, d'après nos confrères de la Provence. Voler du rouge pour s'acheter de la blanche, en résumé. L'affaire va se conclure au tribunal. Le principal suspect, toxicomane, et les autres mis en cause devront comparaître devant la justice en septembre prochain, au moment des vendanges.
Voler du rouge pour s'acheter de la blanche. Le récit de Guillaume Bien. Merci Guillaume, chef du service police-justice d'RMC.
RMC, Apolline Matin.
Charles Magnin.
6h43, bon réveil sur RMC. Tiens, on va essayer de faire les courses sans se faire avoir.
À vous de nous dire.
Des cordons bleus, plus chers, mais avec moins de poulet. Des hachés au jambon, dont la quantité de jambon est passée de 48 à 35%, mais dont le prix a augmenté. Des yaourts islandais, les fameux skyrs, vous savez que c'est la mode, dont on a augmenté le taux de sucre, tout en indiquant recette moins sucrée. Et puis le prix qui grimpe au passage de 13%. Voilà quelques-uns des exemples dénoncés par l'association Foodwatch France, qui surveille notre alimentation et réclame davantage de transparence de la part des industriels dans les changements de recettes. Elle les accuse de pratiquer ce qu'on appelle la cheapflation. On connaissait aussi la shrinkflation. Hein. On maintient, voire on augmente le prix, tout en diminuant la quantité. Hein. Il y a un peu d'air quand on ouvre le paquet, il y a pas mal de vide. On l'a tous parfois constaté. Et justement, on vous attend ce matin au 32-16. Est-ce que vous faites particulièrement attention au prix, au poids, à la composition des aliments? Est-ce que vous avez le sentiment parfois de vous faire avoir en faisant vos courses? Et bah tiens, on va accueillir tout de suite Julien, qui nous appelle de Saône-et-Loire. C'est ça, bonjour Julien.
Oui, bonjour tout le monde.
Alors, bon, Julien, je vois que vous êtes en formation de cuisinier, c'est ça?
Ouais, c'est ça, reconversion professionnelle. Après 18 ans à la SNCF, je passe mon CAP cuisine.
C'est génial, changement de vie pour devenir cuisinier. Bon bah alors Julien, si vous avez envie d'être cuisinier, j'imagine que vous allez m'engueuler. Parce que ça m'arrive, moi, d'acheter certains des produits là dénoncés par Foodwatch. Les cordons bleus, les yaourts islandais.
Vous me faites hurler dès le matin, là.
Alors allez-y Julien, engueulez-moi. Comment ne pas se faire avoir? J'imagine que vous allez me dire qu'il faut cuisiner.
Bah déjà faut cuisiner, mais en fait la première arnaque, forcément en fait la première arnaque, elle est d'emblée dans la composition des produits. En fait, avant même de regarder le prix au kilo, le prix sur l'étiquette, bah il faut déjà regarder la composition. La première arnaque, elle est là quoi déjà. Hein. Et oui. Puis bah forcément après hein, quand on en connaissance de cause maintenant, bah quand on se rend vite compte que faire une pâte feuilletée, bah ouais ça prend du temps, mais une fois qu'elle est faite, on peut la mettre au congèle, on la ressort une semaine après pour faire des croissants jambon avec du bon jambon acheté chez le boucher et voilà quoi, hein, ça coûte vraiment pas plus cher.
Oui, non, mais je suis bon, vous savez, vous nous faites rêver, vous nous mettez en appétit, Julien. Mais vous avez commencé en disant oui, ça prend du temps quand on a les enfants, la journée de boulot, etc. On n'a pas forcément le temps, donc parfois, oui, c'est tentant le cordon bleu. Non, mais alors, prenons l'exemple des yaourts. Voilà, c'est tout simple, ça, les yaourts. Julien, vous n'allez pas me dire de les faire moi-même.
Ah, j'avoue que sur certains produits, voilà, forcément, qui nécessitent beaucoup de temps de transformation, etc. Oui, bien sûr, sur certains produits.
C'est intéressant. Julien, juste, vous m'avez parlé de poids au kilo, etc. Vous, quand vous êtes dans les rayons du supermarché, vous prenez le temps de regarder le prix, le poids, le prix au kilo et aussi la recette pour chaque produit que vous achetez?
Mais en fait déjà le prix au kilo, mais aussi la provenance, parce que même sur certains produits transformés pour les produits laitiers, voilà, tout ce qui s'est passé avec les agriculteurs, je ne sais pas trop si on peut citer des marques.
Allez-y, Julien, évidemment, vous êtes
Par rapport, la marque des consommateurs, c'est qui le patron? Voilà, c'est par exemple, c'est des initiatives de marque, voilà, où les industriels sont complètement transparents. Le prix, il est affiché direct sur l'emballage. On sait combien revient au producteur.
Vous avez raison, Julien, parce que j'ai cité le prix, le poids, la recette. J'ai même pas parlé de l'origine. Il y a aussi un label Origin Score qui doit être mis en place. Bref, ça fait beaucoup d'infos, Julien, à regarder. Il faut prendre le temps de faire la cuisine désormais, et puis il faut doubler le temps qu'on passe au supermarché si on veut pas se faire avoir. Bougez pas, Julien, parce que j'aimerais aussi qu'on accueille Elisabeth. On va prendre la direction du Nord, le Pas-de-Calais avec Elisabeth. Bonjour, Elisabeth.
Bonjour.
Comment ça va ce matin, Elisabeth?
Ça va, je suis dans ma voiture.
Attendez, j'espère que vous êtes bien arrêtée, Elisabeth. On se met pas en danger.
Non, en fait, je suis dans ma voiture parce que j'ai mon perroquet qui crie. Alors, si vous me parlez, je pourrais pas vous attendre. Donc, je suis partie dans ma voiture exprès. Je suis gelée dans ma voiture.
Attendez. Elisabeth, on va reprendre les choses dans l'ordre. C'est votre perroquet qui vous vient de chez vous, en fait. Vous habitez chez le perroquet, là.
C'est le perroquet qui me dit va dehors parce que tu vas pas pouvoir parler. Donc je dis bon, je vais aller dans ma voiture, mais par contre je suis gelée.
Comment il s'appelle ce perroquet, Elisabeth?
Coco.
Évidemment. Bon, Elisabeth, on va quand même aller faire les courses avec vous. Racontez-nous, est-ce que vous aussi, quand vous faites les courses, vous vous mettez à regarder le prix, le poids, la recette, l'origine? Est-ce que vous arrivez à tout trouver sur l'étiquette?
Moi, je regarde le prix, le poids, tout ça, non. Mais par contre, c'est ce que je remarque, comme j'ai dit à votre, au standard, j'achète des pancakes, hein. Bon, pourtant, je suis à la retraite et je pourrais faire des crêpes, j'en fais, mais bon, là, j'en achète pour mes petits-enfants. Avant, il y en avait deux dans un petit paquet, maintenant, il n'y en a plus qu'un. Le poids, c'est vrai qu'il a diminué. Donc, on voit de plus en plus, de moins en moins de gâteaux. Enfin, les pancakes, il n'y en a plus qu'un au lieu de deux. Par contre, c'est pareil pour le sopalin. Avant, vous aviez le sopalin, j'ai remarqué qu'il était plus gros. Et maintenant, il est de plus en plus petit. Et voilà. Donc, il y en a de moins en moins dans les gâteaux, tout ça. Il y en a de moins en moins.
C'est ce qu'on appelle la shrinkflation. Il y a du vide dans les paquets. C'est un peu moins généreux. Avec un prix qui ne baisse pas, voire qui augmente. Et à la fin, Elisabeth, vous avez le sentiment de vous faire avoir là en tant que consommatrice?
Oui, on se fait avoir. Vous savez, j'ai discuté avec une qui met dans les rayons, en fait. Une employée, je lui ai dit, c'est hors de prix, il y en a de moins en moins. Elle dit, oui, madame, elle dit, vous savez, ils sont gagnants. Hein. Elle dit, le plus perdant, c'est vous. Hein. Elle dit, vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes perdant, même avec les remises et tout, vous êtes perdant. Ils sont gagnants.
Comment ne pas perdre en faisant ces courses? On aura des premières réponses tout à l'heure. Soyez bien là, Elisabeth et Julien, à 7h40, avec Karine Jacquemart de l'ONG Foodwatch, qui justement traque les prix, compare aussi sur plusieurs mois, parfois plusieurs années, pour vérifier le prix, le poids, la recette, tout ce qui bouge et tout ce qu'on ne nous dit pas forcément. Elisabeth, je vous fais confiance, vous embrassez Coco de notre part, d'accord?
Oui, je vais faire un gros bisou, puis je vais rentrer vite.
Exactement.
Parce que je suis déjà allergique au pollen, alors là, je vous dis pas.
Allez vous réchauffer, Elisabeth. Merci. Vous vous installez avec Coco. Vous écoutez la radio sur RMC. Vous pouvez même regarder sur RMC Story. On remercie aussi Julien d'être passé par le 32-16. Et vous aussi, continuez à réagir. Tiens, vous êtes évidemment consommateur comme Julien, comme Elisabeth, peut-être employé de la grande distribution. Cette shrinkflation, cette cheapflation, on continue à en débattre avec vous au 32-16.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant sur RMC, c'est Racontez-nous avec Laurent Neumann.
Oui, du nouveau dans la disparition du Boeing de la Malaysia Airlines. Vous souvenez, cet avion qui a disparu il y a plus de 10 ans.
Et puis, on n'a pas osé, mais Sébastien est là.
Est-ce que vous allez oser le pull sur les épaules cet été? Vous savez, ce look un peu BCBG, je vais vous dire que ça n'est plus ringard.
Oh, vaste débat dans un instant sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Oui, vous êtes bien sur RMC, il est 7h dans 8 minutes, mais surtout on est ensemble jusqu'à 9h avec un programme très riche. Dans 20 minutes, un nageur de 18 ans, Michel Arkhangelski, grand espoir de la natation. Il a demandé la nationalité française, lui qui habite à Nice depuis ses 4 ans, demande refusée par le ministère de l'Intérieur. Il trouve ça particulièrement incompréhensible et injuste. Il sera en direct avec nous à 7h10. À 8h10, on reviendra sur l'annulation de la conférence sur la Palestine prévue ce soir à l'Université de Lille. Jean-Luc Mélenchon et la militante franco-palestinienne Rima Hassan devait échanger avec des étudiants. L'université a annulé pour raison de sécurité. C'est un précédent dangereux, nous dira l'essayiste Mathieu Slama à 8h10.
RMC, Apolline Matin.
Racontez-nous.
Et tous les matins, racontez-nous avec Laurent Neumann. Et il y a du nouveau. La disparition du Boeing de la Malaysia Airlines, c'était le 8 mars 2014.
Oui, le fameux vol MH370 et ses 239 passagers. Disparition qui a mobilisé des centaines d'enquêteurs, d'experts, qui a même suscité une série à succès sur Netflix. Et bien, figurez-vous qu'il y a du nouveau. Grâce à un ancien pilote de ligne toulousain d'Air France, Patrick Blély, qui a mené sa propre enquête, notamment grâce à des données inexploitées de 3 radars militaires malaisiens. Et elle semble, ces données, accréditer sa thèse, celle d'un détournement suicide qui finit par un amérissage forcé dans le sud de l'océan Indien, dans une zone où les recherches n'ont pas encore été effectuées.
Mais alors, que disent-elles ces données ?
Eh bien, les experts qui travaillent avec Patrick Bélier ont réussi à reconstituer avec précision la trajectoire de l'avion entre le moment où le transpondeur est mis sur stand-by et sa sortie de la couverture radar. Une période qui dure environ une heure et durant laquelle l'avion serait repassé au-dessus de la Malaisie, aurait survolé le détroit de Malacca, tout ça en pilotage manuel. Celui qui était aux commandes aurait alors simulé une descente d'urgence pour dépressuriser la cabine. Et alors là, c'est le début de l'horreur. Au bout de 22 minutes, les passagers n'avaient plus d'oxygène dans leur masque, contrairement aux pilotes dans le cockpit qui, eux, disposent d'une autonomie de 27 heures. Fait troublant supplémentaire, le téléphone portable du copilote a borné sur une antenne au sol dans l'île de Penang, 30 minutes après la descente, sans doute parce qu'il a dû tenter d'alerter l'extérieur. Débarrassé des passagers, si j'ose dire, eh bien le pirate de l'air a pu poursuivre son plan. Après être passé au nord de Sumatra, il a mis cap au sud, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de kérosène dans l'avion, et donc jusqu'à amerrir dans l'océan Indien, ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi on a retrouvé aussi peu de débris. Alors évidemment, ça accrédite la thèse de Patrick Bélier, un détournement opéré par quelqu'un qui voulait se suicider. Ça, pour le coup, on ne le sait pas.
Mais non, mais c'est dingue, tous ces détails. On sait, du coup, où pourrait se trouver la carlingue ?
Eh bien oui, Patrick Bélier dit, lui, qu'il a défini une zone de recherche qui n'a pas encore été couverte. Elle s'étend sur 2200 km². Elle pourrait être explorée en une dizaine de jours. Deux sociétés privées sont prêtes à procéder aux recherches et à ne les facturer que s'ils retrouvent l'avion. Début mars, le gouvernement malaisien avait dit qu'il était favorable à des nouvelles recherches s'il y avait de nouvelles preuves. Il y a 3 ou 4 ans, la Malaisie avait même proposé 70 millions de dollars à ceux qui retrouveraient la carlingue. On imagine l'espoir que ces nouvelles informations suscitent pour les familles.
Oui, donc on a hâte de suivre aussi les recherches qui vont se poursuivre. Mais évidemment, ce récit incroyable, se racontez-nous de Laurent Neumann, à retrouver aussi quand vous voulez en podcast sur l'appli RMC.
RMC, Apolline Matin.
On n'a pas osé vous en parler.
Et pourtant, parlons mode, parlons fashion, puisque Sébastien Krebs ose nous dire que le pull sur les épaules, ce n'est plus ringard.
Ouais, figurez-vous que c'est même la tendance branchée de ce printemps, le pull sur les épaules noué autour du cou, vous savez, pour la petite balade le soir en vacances. Image très connoté, hein.
Ah oui.
Jusqu'à présent, ça faisait très université d'été du RPR.
Oui, c'est le look Chirac.
Le look Chirac, Juppé, Sarkozy, le pull sur les épaules est-il de droite, se demande le Figaro. C'est vrai que depuis les années 80, c'est plutôt club de golf et sorti en voilier. Très BCBG, très 16e. Bon, aujourd'hui, ça n'est plus le cas. À la faveur d'un regain d'intérêt de la jeunesse pour les codes bourgeois. Voilà ce qu'on peut lire. Le pull sur les épaules est devenu tendance. Il suffit de faire une petite recherche sur Internet, bien sûr, vous en voyez partout. Il y en a dans tous les magazines de mode avec des photos, les stars qui ont adopté ce pull noué sur les épaules. Les créateurs en vogue comme Jacques Mu en ont mis plein leur défilé pour la saison printemps-été 2024. Et le monde de la mode a même donné un nom à cette tendance, le old money. Traduisez le look vieux riche, quoi. Et donc, ça, le look vieux riche revient, mocassin vernis, et hop, pull sur les épaules, un peu classique avec le petit polo. Donc vous n'aurez plus honte cet été, Charles, Laurent, Victor, de mettre le petit pull en laine, le petit chandail pour
avec un petit pantalon rouge et des chaussures sans chaussettes.
Exactement,
des chaussures bateau, évidemment. Et ben, à suivre, on verra qui ose cet été le pull autour des épaules. En attendant sur RMC, dans un instant, c'est le journal de 7h, la météo, toute l'info en direct. Tiens, à la une du journal de 7h, cette directrice d'école à Marseille, frappée par la sœur d'une élève. On vous dit tout dans un instant.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.